Et donc, c'était le thème de la foi. Alors, on a chaque soir, on avait un peu des versets bibliques sur la foi. Et rappelez-vous, la semaine dernière, on a commencé à donner un fondement. Alors, le fait que nous ayons un sol ici, qui ne soit pas suffisamment solide pour être dans les normes, et pour lequel il manque des piliers, eh bien, moi, ça nous a parlé, si vous voulez. Hein. On ne va pas chercher des sens partout, mais ça nous a parlé. Et c'est comme si Dieu nous disait, voyez, il faut renforcer les piliers dans votre vie. Il faut renforcer les piliers dans l'Église. Et les piliers, ce sont à la fois des ministères, c'est à la fois la foi qui est un des piliers pour nous tous. Et moi, je fais le parallèle entre cette situation physique, où physiquement, on est en train de travailler à mettre des pylônes, et puis la situation spirituelle, où Dieu nous dit, et les coquins là, dans l'année qui vient, la foi que vous aviez il y a quelques mois, elle a intérêt à grandir pour affronter, pour vivre, pour passer au travers de ce qu'il y a pour nous, Dieu a pour nous cette année. Alors je fais un petit rappel de la dernière fois, l'Épître aux Hébreux chapitre 11. Donc l'Épître aux Hébreux est écrite pour des Juifs qui s'étaient convertis, mais qui était un peu judaïsant. C'est-à-dire, il pensait qu'il fallait de nouveau suivre des lois, suivre des règles pour faire plaisir à Dieu, faire des œuvres. Et donc, l'Épître aux Hébreux est venu à point pour lui dire, attention, c'est pas vos œuvres, c'est la foi. C'est la foi qui est importante. Il y a que la foi qui peut faire plaisir à Dieu. Donc, la fameuse définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On avait insisté sur l'aspect de la démonstration. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se voit. La foi en Dieu, moi Dieu je le vois pas, je mets ma foi en lui, mais parce que j'ai foi en Dieu, il y a quelque chose qui se voit. Rappelez-vous les disciples, des amis qui vont amener le paralytique vers Jésus, ils avaient foi que Jésus allait le guérir. Comment elle se voyait la foi? Mais elle se voyait parce qu'ils ont percé le plafond. Donc une fois qu'ils percent le plafond, il y a des chances qu'il y ait quelque chose derrière, quoi. Donc on avait vu cette notion d'incarner la foi. J'aimerais faire une petite parenthèse par rapport au terme « vivre par la foi ». On a depuis quelques, je sais pas, souvent on entend « vie par la foi, vie par la foi ». J'aimerais dire que quelqu'un qui a son salaire tous les mois, il est appelé à vivre autant par la foi que celui qui n'a pas de salaire. Et la foi est une attitude de cœur qui reconnaît qu'on a tout qui vient de Dieu, que ça dépend de lui et non pas de nous, etc. Donc quand on dit « vivre par la foi », ça veut pas dire seulement, ben je suis pasteur, je suis machin, vous voyez, c'est pas ça. La foi, c'est dans tous les domaines. Et c'est la réforme qui a appelé ça, avec Luther, ils ont dit, mais un père de famille qui va à sa boucherie tous les jours, etc., c'est autant un serviteur de Dieu que quelqu'un d'autre qui est un ministère, pasteur, etc. Et donc, c'est la réforme qui a brisé le dualisme entre ceux qui croyaient que d'un côté, il y avait des clercs, et de l'autre côté, il y avait le peuple. Et Dieu dit, vous êtes tous des sacrificateurs, vous êtes tous appelés à vivre par la foi. Donc attention à comment parfois on conçoit les choses. Et on pense parfois faire des œuvres de foi. Et Dieu nous dit, moi ce que je te demande, c'est faire ce que je te demande. Hein. Voilà, quelle que soit la situation. J'aime bien, il y a une parole de Michée qui dit, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu pratiques la miséricorde et la justice. Ça paraît tout simple, mais c'est ça. Et si c'est des choses toutes simples que Dieu demande, c'est celles-là qui vont honorer Dieu, et parfois pas les grandes que nous, on aurait vues. Alors voilà, autre chose aussi, la capacité de croire, rappelez-vous, est donnée à tous les hommes. Tout le monde a la capacité d'avoir la foi. Tout homme a la foi. Hein. Il y a des fois en l'homme, il y a des fois en la science, il y a des fois. Mais Dieu veut nous donner une foi qui vient de lui. Et cette foi qui vient de lui, il est dit dans Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ça vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc tu pourras faire tout ce que tu veux pour trafiquer tout ça. Ça vient pas de toi, la foi. Ça vient de lui. Donc à tous, on a reçu une mesure de foi et Dieu nous appelle à la faire grandir. Et il est dit ensuite, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le témoignage de Dieu, c'est le témoignage favorable envers ceux qui croient. Envers ceux qui croient. Dieu est honoré quand on croit en lui. Dans des situations de tous les jours, dans nos épreuves de chaque jour. Dieu est honoré, honoré par ceux qui croient en lui. Et il est dit, c'est le seul moyen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11:6. Sans la foi, impossible. On peut chanter. On peut prier, tout ce que vous voulez, c'est des bonnes choses tout ça. Mais si c'est pas sur le fondement de la foi, n'y a rien qui lui soit agréable. Oui, la foi lui est agréable. Alors je pense que vraiment le Seigneur veut qu'on soit encore plus agréable, vous voyez. Hébreux 11, 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On avait parlé de cet immense combat que nous vivions aujourd'hui, en particulier dans le monde de l'éducation, entre une génération qui va croire que le monde que l'on voit vient de l'invisible et une génération d'enfants de Javan à qui on dit il n'y a pas d'invisible, tu ne crois que ce que tu vois, etc. Et Dieu veut lever une église qui comprend ces choses-là et une jeune génération qui ait ce fondement. Vous remarquez que cette façon de dire que c'est l'invisible qui a fait les choses visibles, c'est le début de tout l'Hébreux 11. Donc ça veut dire que ça c'est le fondement de tout. Tu enlèves ça, il n'y a plus de héros de la foi, il n'y a plus rien. Tu enlèves cette capacité de croire que Dieu est créateur, il n'y a plus rien. Tout commence par là. Et c'est pour ça qu'on se réjouit en maternelle et autres quand on dit aux enfants, voilà, Dieu est créateur, Dieu t'aime. Les parents qui disent ça à leurs enfants, c'est le début de la foi. Donc c'est le fondement sur lequel on veut bâtir. Et les mauvais fondements qui ont été mis dans notre pays, il va falloir les renverser au nom de Jésus. Il faut que ça saute tout ça. C'est pas possible. Il faut que ça saute. Et je crois que l'Église a son rôle dans l'intercession parce que l'Église, c'est la colonne de la vérité. Et ces colonnes qui nous manquent en bas, eh bien, nous sommes appelés à bâtir ces colonnes de la vérité. Alors, on a vu aussi Abel. Abel offrit un sacrifice à Dieu plus excellent que celui de Caïn, car par elle, il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, Abel. On avait vu que les morts, ils parlent encore. Et il y en a qui ne savaient pas, et moi non plus parfois, mais les morts, ils parlent. Et la façon dont tu vis, elle parlera encore après ta mort. Et c'est ce que Abel nous dit. Et l'histoire d'Abel, c'est qu'il a fait un sacrifice comme Dieu lui avait demandé. Et Dieu nous dit, depuis l'origine des temps, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Abel avait compris ça. Donc il a dit, c'est pas des légumes que je vais offrir à Dieu, mais c'est un sacrifice. Il faut qu'il y ait du sang. Et ça, il avait compris. Et il a ouvert la voie à la venue de Jésus futur, à l'agneau pascal, l'agneau de la Pâque, lorsqu'on mettait sur les linteaux, ça sauvait des familles. Et ensuite l'agneau de sacrifice au temps d'Israël pour la nation. Et ensuite le sacrifice de Jésus, l'agneau pour le monde. Et Abel avait déjà compris un petit peu quelque chose de ça. C'est pour ça que ça a été agréable. Et alors Caïn, c'est le père, rappelez-vous, on l'a dit, de tous ceux qui veulent faire quelque chose, servir Dieu à leur façon, comme ils l'entendent. Moi, combien de fois j'entends des gens qui disent « Moi, je sers Dieu, j'aime Dieu, il y a que Dieu et moi, quoi. Il y a que Dieu et moi. » Mais ça marche pas comme ça. Parce que il y a Dieu, il y a toi et il y a les autres. Et oui, c'est important les autres. C'est important les autres. Alors, j'aimerais d'ailleurs que, si on pouvait monter au niveau du DVD, est-ce qu'il y a possibilité, est-ce que ça marcherait, ce que les séquences qu'on aimerait voir ensemble. Donc, vous allez voir un DVD très spirituel. Il y a trop de soleil. On va faire un essai, sinon je continue. Mais la notion d'être ensemble, hein, la notion d'être ensemble qu'on veut illustrer. Ouais, c'est le problème avec le soleil, c'est qu'il bouge toujours. C'est comme le Saint-Esprit. Alors, si ça démarrait pas, on... C'est un peu mieux là. C'est un peu mieux, hein. Et on peut essayer de le lancer quand même pour voir où. Voilà, Michel, mets-toi dans la fenêtre, là. Voilà. Je rappelle ce qu'Anne nous a dit, en plein temps d'hiver, c'est là où nous sommes appelés à nous rapprocher les uns des autres. Et dans ces temps d'hiver, où il fait des moins 40, des moins 50...
Je pars. Je dois marcher vers l'océan.
Je reste avec notre œuf, je vais le couver.
La chaleur de mon ventre le protégera jusqu'à ton retour. Va retrouver l'océan et ses festins. Et surtout, reviens à temps pour nourrir notre petit qui va naître. Nous t'attendrons.
Ça, c'est... Je dis pas qui c'est, là. Hein.
Voici le temps de la seconde marche, la marche du crépuscule. Les danseurs se séparent pour la première fois. Je suis affamée. Notre nourriture est là-bas, de l'autre côté du désert. Et c'est seulement ici, sur la glace solide de l'Oamok, que notre petit pourra venir au monde.
Cette mise au monde, ces fruits viennent en plein hiver, alors qu'ils se rassemblent et qu'ils se chauffent les uns les autres. Et je crois que dans les nations, il y a un hiver actuellement. Et le Seigneur nous appelle à être proches les uns des autres.
Ils vont rester ici.
Elles vont marcher. Nous allons attendre. 2 mois de misère et de lutte pour tenter de préserver la vie.
On n'est pas appelé à vivre notre foi tout seul, on est appelé à la vivre ensemble.
Depuis quelques jours, le ciel a l'œil mauvais. Du soleil en montagne, on change de décor. On entend l'hiver qui s'apprête à frapper. Avec notre œuf sur les pattes, nous sommes comme des funambules. Nous nous serrons les uns contre les autres. Nous ne sommes plus qu'un seul corps qui s'enroule sur lui-même, comme un tourbillon de tempête. Nous tiendrons.
je crois qu'on peut arrêter là. C'est simplement pour illustrer ce que la notion de la foi, qui est aussi une affaire collective, et l'interpellation que nous avons eue il y a 15 jours, où Dieu nous disait de nous rapprocher les uns des autres, et que dans ces temps hivernaux spirituels, ce sont ces temps propices à l'éclosion de la vie, justement, en plein dans le froid. Et ces vieux manchots, enfin ces adultes qui entouraient les petits, ça nous parle de la génération qui est appelée à la génération des plus grands, à protéger celle des plus petits. Et vendredi soir, à la prière avec l'Église réformée, on a partagé dans Hébreux 11, il était question de la bénédiction des anciens. Et je crois que là, on a quelque chose, un travail transgénérationnel à faire, où les plus mûrs dans la foi sont appelés à accompagner, à entourer les plus jeunes, et qu'il y ait aussi un relais au niveau de ceux qui ont le dos qui est contre le blizzard, contre le vent qui est si froid. Voilà simplement ce que je voulais souligner par rapport à ce que Dieu était en train de faire. Donc la notion de la foi qui est une notion vraiment collective. Abel a été déclaré juste. Je vais pas être long. Et j'aimerais juste qu'on voit maintenant Hébreux 11, versets 5 et 6. Et on va simplement voir ces deux versets. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors vous voyez, le premier héros de la foi, c'était Abel. Abel est celui qui a adoré le Seigneur. Et l'adoration, c'est le début. C'est le début de tout. C'est la première marche. Mais Enoch, il va montrer autre chose. Abel a montré l'adoration par la foi. Enoch, il va montrer la marche par la foi. Et c'est quand même une dimension autre encore. Dieu n'a jamais voulu que les œuvres, eh bien, ça nous sauve. Mais par contre, une fois qu'on est avec lui, il nous demande de marcher. Enoch, on sait très peu de choses de lui. Mais dans Genèse chapitre 5, versets 21-24, il y a quelques précisions. Et vous allez voir, le texte est très court, mais alors il est dense. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu deux fois. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Abel savait ce qu'était l'adoration par la foi. Enoch, il a su ce qu'était la marche. Il y a une progression dans la révélation de Dieu. Il y a une progression dans les temps, dans l'histoire. Et Dieu veut approfondir cette révélation pour chacun d'entre nous. Et Adam et Ève avaient marché avec Dieu dans le jardin d'Éden. Ils avaient parlé avec Dieu. Mais après la chute, ils ont été chassés du jardin et ils ont cessé de marcher avec lui. Et Enoch, lui, il a rétabli la destinée de l'homme qui est de marcher avec Dieu. Est-ce que tu sais que ta destinée, c'est de marcher avec Dieu sur cette terre? Marcher avec Dieu. Ça, c'est absolument une destinée extraordinaire. Et Enoch a rétabli, après le péché, il était pécheur comme nous, mais il a rétabli ce principe d'une marche avec Dieu. Ça, c'est la destinée suprême de l'homme. En Enoch, la destinée de l'homme est de nouveau accessible. Il a connu la communion que Adam et Ève avaient perdue. La foi d'Enoch était semblable à celle d'Abel en beaucoup de points. D'ailleurs, il n'aurait pas pu être en communion avec Dieu s'il n'avait pas compris qu'il fallait un sacrifice. Donc la Bible ne nous le dit pas, mais très probablement, cette histoire de sacrifier, elle était déjà, Abel l'avait déjà transmise, et qu'il l'a reçue de son père lui-même, etc. Plaire à Dieu, on ne peut pas plaire à Dieu sans qu'il y ait un sacrifice. Donc Enoch avait dû connaître cela, et sinon il n'aurait pas pu marcher sans être d'abord approché de Dieu. Il faut d'abord s'approcher de Dieu avant de marcher avec lui. Et on ne peut pas s'approcher sans effusion de sang. Donc il a dû comprendre ce qu'était l'offrande. Dans Hébreux 11, 6, ça, il est dit, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Croit que Dieu existe. Alors, dans nos versets, Enoch présente 5 aspects, vous allez dire très court, pour être agréable, 5 aspects de la vie d'Enoch agréable à Dieu. Il croyait que Dieu existe, premier point. Il a cherché la rémunération de Dieu, deuxième point. Il a marché avec Dieu, troisième point. Il a prêché pour Dieu. Alors là, c'est un truc que vous allez voir, c'est ni dans la Genèse, ni dans Hébreu, mais on va voir ça ailleurs. Et il est entré dans la présence de Dieu. Croire que Dieu existe. Alors bon, je vais aller vite parce que là, bon, j'espère qu'on croit qu'il existe. Mais vous savez, il y a une différence entre croire que Dieu existe et croire en Dieu. Il y a une grande différence. Il y a beaucoup de gens, les démons, ils croient que Dieu existe. Hein. Ils croient, c'est sans problème. Hein. Mais croire en Dieu, c'est différent. La création nous parle et nous dit que Dieu existe. Et la création est là pour nous dire, tu peux arriver jusque-là. Arriver à la conséquence de dire, mais il doit y avoir un Dieu, c'est pas possible. Mais ça, c'est pas encore la foi. Et la foi, elle vient quand Dieu est une personne pour nous. Et ça, on commence à dire, non pas je crois que Dieu existe, mais je crois en lui. C'est-à-dire, ça devient une personne pour moi. Hébreux 6b, 11 6b, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il cherchait la rémunération et donc là on sait qu'il avait affaire à un Dieu personnel. C'est-à-dire un Dieu qui a un sens de justice, un Dieu qui est moral, un Dieu qui récompense ceux qui croient en lui. Et ça, pourquoi rendre récompense? Ça peut que être le fait de croire en un Dieu qui est une personne. Et ça c'était Enoch. Alors Enoch il croyait cela dans les limites de la révélation qu'il avait. Il croyait en Dieu, que c'était un Dieu d'amour, que c'était un Dieu qui était juste. Et c'est ça qui est la foi de Enoch. Einstein avait dit ceci, assurément il y a un Dieu. Tout homme qui ne croit pas en une force cosmique est un insensé, mais on ne peut jamais connaître Dieu. Bien que Einstein ait été très brillant, eh bien là il s'est bien trompé. Parce que c'est pas une force Dieu. Moi j'ai un beau frère, il est un peu dans le New Age, tout ça, il croit que c'est une force, il y a des forces. Mais Dieu c'est pas une force, c'est une personne. C'est une personne. Et c'est là la différence avec tout ce qui est New Age, tous ces gens qui mettent le nom de Dieu, mais derrière le nom de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a pas de personne. Il y a des forces impersonnelles. Dieu est une personne. Enoch, il a connu ça. Et la Bible me dit que je peux connaître Dieu. Je peux connaître Dieu. Je peux lui faire confiance. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont remplis d'enseignements qui nous disent, non seulement tu peux connaître que Dieu existe, mais Dieu désire ardemment que tu le connaisses. C'est ça. Dieu désire que tu le connaisses mieux. Alors, 1 Chronique 28:9, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. C'est David qui a dit à son fils. Psaume 58:12, il est une récompense pour le juste. Dieu est un Dieu qui juge sur la terre. Proverbe 8:17, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Toute la Bible est parsemée de ça. Jérémie 29:13, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. On veut tout de suite aujourd'hui, hein. On veut tout de suite. Hein. Mais Dieu, c'est un Dieu qui aime qu'on le cherche. Il aime qu'on le cherche. Donc, il y a des moments où Dieu, il ne va pas te faire tout cuit. On est un petit bébé avec lui, tout est tout cuit. On prie, ça vient, ça tombe, ça. Puis après, ça ne marche plus comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu le cherches. Voilà. Et ceux qui cherchent, ils trouvent. Ceux qui râlent, ils ne trouvent pas. Ceux qui cherchent, ils trouvent. Alors, Luc 11:10, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et Jésus, bien sûr, cherchez premièrement le royaume de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ensuite, donc, Enoch, il a su que Dieu existait, ça nous parle, que Dieu était le rémunérateur. Dieu est un rémunérateur. Hein. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais on est tous égaux, tout ça. Bien sûr qu'on est tous égaux devant Dieu, mais attention, Dieu parle de récompense. Il n'y a pas les mêmes récompenses. La vie éternelle que l'on prépare ici-bas ne sera pas la même pour chacun d'entre nous. Elle ne sera pas la même. Et c'est maintenant qu'on le prépare, ça. Les trésors qu'on donne pour la maison de Dieu, ça bâtit un trésor dans le ciel aussi. Dieu nous demande d'investir aujourd'hui. Donc, ça veut dire que selon l'investissement de ce jour, il y a une rémunération différente. Pensons-y. Ça, c'est la notion de justice. Dieu nous aime tous, qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas. Mais il y a une rémunération. Et Enoch, il a été dans les héros de la foi. Il savait qu'il y avait une rémunération. Aujourd'hui, on est tellement égalitariste que même l'idée de rémunération dit non, 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 c'est pas pour moi, Seigneur, donne aux autres. Vous savez. Mais Dieu, c'est un Dieu juste, attention. Alors, Enoch a marché avec Dieu et croire que Dieu existe, c'est le premier pas vers la foi. Croire que Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent, ceux qui croient en lui, c'est le premier pas de la foi. Voyez. Alors, croire pleinement en Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le commencement d'une vie. Et pour continuer à plaire à Dieu, il nous demande de marcher avec lui. Alors le mot marcher, on le trouve partout. Romains 6,4. Nous avons été ensevelis avec lui dans le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. 2 Corinthiens 5,7. Nous marchons par la foi, non par la vue. Toujours cette marche. Est-ce que tu es en marche ce matin? Est-ce que tu es en marche? Est-ce que tu as fait un bout de chemin avec Dieu depuis un an? Est-ce que tu as avancé dans cette marche? Si ce n'est pas le cas, arrête de te morfondre, mais dis maintenant, je me relève et je continue ma marche. L'apôtre Paul un jour dit, mais vous marchiez, vous couriez, qui c'est qui vous a arrêté? Qui c'est? On peut être arrêté dans la marche. Et ce n'est pas Dieu qui nous arrête. Hein? Ce n'est pas Dieu qui nous arrête. Hein? Jamais. C'est ou nous-mêmes ou les circonstances. Et Dieu nous dit, mais je veux que tu continues à marcher. Galates 5,16, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Éphésiens 5,2, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Et Christ parle de notre communion avec lui dans le ciel et il utilise le mot marcher, même pour le ciel. Regardez, Apocalypse 3,4, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alors la marche, il y a intérêt à s'y mettre parce que dans le ciel on marchera. Hein? Alors Enoch, comme chaque croyant devrait marcher avec Dieu comme Enoch, hein, chaque jour de sa vie. Et pour marcher avec Dieu, il faut être réconcilié avec lui, bien sûr. Dans Amos 3,3, il nous est dit, deux hommes qui marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Pour marcher avec Dieu, il faut s'être concerté avec lui. Il faut savoir quel chemin, il faut une communion. Et Amos nous dit ça. Alors deux personnes, elles peuvent marcher s'il y a une communion, s'il y a un accord. La rébellion était terminée avec cet homme de foi qui a été Enoch. Et depuis la chute d'Adam, j'ai noté, chaque être humain qui a vu le jour dans le monde a été en rébellion contre Dieu. On ne devient pas rebelle, on est au début rebelle, tout le monde est rebelle. Mais on est par nature des enfants de colère, me dit la Bible. Mais la réconciliation avec Dieu fait que j'ai la capacité de marcher avec lui. Dieu, il veut que tu marches avec lui. Il veut pas, on n'a pas à vivre tout seul nos galères, nos difficultés. Il veut marcher avec lui. Et Dieu, il est à la fois dans le ciel, il est à la fois sur la terre. Et j'aimerais rappeler que sur la terre, le corps de Christ, c'est qui? C'est vous tous, c'est nous tous. Donc quand je dis je marche avec Dieu, attention, ça, c'est pas le Dieu hein, tout seul comme ça. Je marche avec son corps. C'est ça, marche avec Dieu. D'où la vision, le DVD. Je marche avec son corps. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Personne. Mais la marche avec Dieu. Personne ne peut dire je marche avec Dieu quand il est tout seul. Moi, j'ai connu des gens qui sont tellement mieux que toutes les églises qui marchent tout seuls avec Dieu. Mais Dieu, il est le corps de Christ, c'est Dieu aussi. Et lui, il est sur la terre. Il est fait de chair, d'os, de frères et de sœurs. Et c'est ça qui est important à se rappeler, cette marche. Alors, réconciliation, et puis aussi avoir la même nature que Dieu. Quand tu promènes ton chien, tu dis, moi je marche avec mon chien. Bon, c'est sympa, hein, si tu veux. T'as tes petits hamsters, t'es tout ça. Je sais, il y a notre frère Frédéric, il y a des rats aussi là-haut, vous savez, il élève des rats. C'est très gentil, ils vont sur son épaule, tout ça. C'est sympathique, voilà. Mais tu peux pas dire, tu marches avec, quoi. Hein, c'est marcher avec, il faut être d'une même nature. Et Enoch, il avait la nature divine en lui. Et le jour où on a mis notre foi en Jésus, on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, il y a une nouvelle nature qui est en nous, qui correspond à la nature de Dieu, et qui fait qu'on peut marcher avec lui. Parce que on a cette même nature. On est participant de la nature divine. Ça, c'est 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. En Christ, on reçoit une nature céleste. C'est pour ça qu'on peut marcher avec Dieu. Alors, notre chair, elle ne marche pas avec Dieu, hein. Mais la nouvelle nature en nous, elle a la capacité de marcher avec Dieu. Et d'ailleurs, la nouvelle nature qui est en toi, est-ce que tu sais que personne ne peut y toucher? Le diable peut mettre le feu, ça ne brûle pas la nouvelle nature. Hein. Sois tranquille. La nouvelle nature, elle est éternelle. Rien ne peut la consumer. Rien ne peut la détruire. Aucune épreuve, aucun combat, aucune maladie. La nouvelle nature en toi est éternelle. C'est une portion de Christ. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, nos souffrances, ce qui consume en nous tout ça, eh ben Seigneur, c'est quoi? C'est le reste. Hein? Alors voilà, Adam, poussière, Eh bien voilà, eh bien le Seigneur, de temps en temps, c'est pas facile, mais cette ancienne nature, elle est mise au pas, mais c'est pour que nous puissions marcher avec Dieu. Il marchait avec Dieu parce qu'il était intègre. Et le règlement du péché avait été effacé de façon juridique. Et c'était un sacrifice qui avait été offert. 1 Jean chapitre 1, verset 6-7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Remarquez, si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il y a vraiment une interaction entre la foi en Dieu, la marche en Dieu et cette purification continuelle dans la marche. Et ensuite, marcher avec Dieu, ça veut dire une volonté soumise. Et Enoch, 300 ans, c'est quand même énorme. Nous déjà, là, je sais pas, les vieux routards là, de l'évangile, là, qui c'est qui fait le plus gros score là? Allez, les Chalbretter, combien de marches avec Dieu? Depuis toujours? Oh, il n'y a pas eu un déclic, quelque chose? Des grandes étapes. Bon, j'aimerais bien voir Denise, petite Denise Chalbretter, comment elle marchait avec Dieu. Mais bon, ça fait un bail alors. Donc on va dire le chiffre, on va le dire le chiffre. Vas-y. 76. Donc c'est quand même, voilà. D'autres, qui c'est qui fait mieux là? Ouais, Samuel, dehors. Voilà. Donc voyez, 20 ans, 30 ans de marche avec Dieu, lui 300 ans de marche avec Dieu. Et attention, c'était pas facile, on va voir le contexte. Alors le Nouveau Testament nous décrit la marche avec Dieu de bien des manières. 3 Jean 4... il nous parle de marcher dans la vérité. Romains 8, 4, il nous parle d'une marche spirituelle. Éphésiens 5, 8, marcher dans la lumière. Éphésiens 5, 15, marcher dans la sagesse. Mais l'exemple suprême, mieux que les Chalbretter, de celui qui a marché avec Dieu, c'est Jésus lui-même. Et Jésus qui a marché avec Dieu, qui a fait la volonté de Dieu, et qui a pu dire, l'apôtre Paul nous dit, celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même, Jésus. Celui qui dit « Je demeure en Dieu », il doit marcher avec lui, comme Jésus a marché. Donc voyez, nous avons... Et alors, aussi je termine, Enoch a prêché pour Dieu. Alors vous allez dire, mais c'est où? C'est pas dans l'hébreu? C'est pas dans la Genèse? Où est-ce qu'il nous est parlé de Enoch? Eh bien, dans la petite épître qu'on oublie souvent, l'épître de Jude. Et Jude, chapitre, verset 14, il n'y a pas de chapitre, verset 14 et 15, je lis, « C'est aussi pour eux que Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Donc voyez, il a prêché, il a prophétisé. Et c'était un monde difficile. L'impiété était à son comble. Il a dû peut-être répéter ce message plusieurs fois, mais il n'a pas vécu à une époque où c'était facile de croire. Voyez. Et alors, la foi d'Enoch n'était pas seulement quelque chose qu'il ressentait dans son cœur. La foi d'Enoch, elle se voyait dans ce qu'il disait, dans comment il marchait et donc comment il vivait. Ce n'est pas étonnant que dans Hébreux 11:5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Un des rares dans la Bible qui n'a pas connu la mort physique. Un des rares, tellement en communion de Dieu, tellement agréable, que hop, il n'a pas vu la mort, et directement avec Dieu. Un autre, ça aurait été Élie, qui va vivre ça, et préfiguration de Jésus, mais préfiguration aussi d'un épisode qu'on va vivre peut-être un jour, 1 Thessaloniciens, je termine par là, 4, versets 16 à 17, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. » Tout à l'heure, pendant le temps de prière, il y a un frère qui est venu me voir et qui m'a dit « J'ai entendu des trompettes. » Entendu des trompettes. La trompette de Dieu, ça parle du jugement, ça parle de le jugement qui n'est pas une mauvaise chose. Hein. C'est un jugement qui fait périr tout ce qui est inique. Hein. Et il est dit, à cette trompette de Dieu, Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. et ensuite nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec lui sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà Enoch ce qu'il nous dit, de marcher avec Dieu. Et la marche n'est pas finie, puisqu'elle est éternelle, mais déjà sur cette terre, cette marche, elle peut ouvrir notre fidélité dans notre marche à nous, elle ouvre un passage. C'est comme dans la jungle, quand ceux qui passent avec les machettes, ils frayent le passage, et derrière vous avez toute la caravane qui peut passer. Eh bien nous sommes appelés, avec l'épée de la parole de Dieu, à frayer des passages pour la génération d'après, pour notre pays, afin que eh bien, nous puissions voir la gloire de Dieu et l'avancement de son règne. Voilà tout simplement la foi, exemple d'Enoch pour chacun de nous. Amen. Alors Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la foi d'Enoch qui a marché avec toi. Seigneur, non seulement l'adoration, mais la marche avec toi, dans la foi. Seigneur, tu es le modèle, Jésus, tu es le parfait modèle de cette marche sur cette terre, en communion parfaite avec ton Père. Et Seigneur, merci. Je te prie pour ceux d'entre nous qui ont trébuché, qui se sont peut-être arrêtés, qui ont été découragés. Et Seigneur, je te prie ce matin, relève-les, qu'ils puissent marcher, Seigneur. Et parfois, on n'arrive plus à marcher. Et c'est là que un frère et une sœur nous portent. Et on continue cette marche, parce que nous sommes un corps, Seigneur, unis en toi. Et nous croyons que dans cette saison d'hiver, dans cette saison d'ébranlement, dans cette saison où les nations tremblent, eh bien tu as beaucoup, beaucoup de merveilleux projets qui vont éclore dans nos cœurs et dans le cœur de ton Église. Seigneur, merci pour la chaleur de la foi et de l'amitié fraternelle. Au nom de Jésus. Amen.